Je vous racontais une petite histoire. Vous aimez les histoires? Un jour, il y a un vieil homme sage. Il va visiter un frère qui avait perdu la ferveur dans son cœur, qui avait perdu le feu dans son cœur. Et donc, il l'appelle et lui dit « J'aimerais bien venir chez toi », dit-il à ce frère. Ce vieil homme arrive un jour, c'était en plein hiver, et il y avait, vous savez, dans le temps des feux, je sais pas, vous avez, c'est vrai, je suis vraiment vieux, les feux à charbon. Qui a connu le feu à charbon? Comme par hasard, il y a que les cheveux blancs qui se lèvent les mains. Et moi, ouais, j'ai connu ça, et je me souviens, c'était des gros galets, hein. Et les gars venaient, les gars des charbonnages, ils venaient déverser ça dans votre cave, et puis on avait la fameuse pelle, et on remplissait, et on allait remplir, voilà. Au moins, à l'époque, on faisait tellement d'efforts qu'on n'avait plus besoin de se chauffer, quoi. Hein? Et puis, cet homme arrive, il ne dit rien à cet homme qui avait perdu de la ferveur, le feu dans son cœur. Il ne dit rien. Et tout ce qu'il fait, c'est que régulièrement, il prend, avec une pincette, vous savez, dans le feu à charbon, il prend une pincette, enfin, un galet qui était incandescent, il le sort, il le met à côté, sur l'âtre. Et puis, une fois que vous savez, au bout de quelques temps, cet âtre, ce galet devient tout noir parce qu'il s'est refroidi. Et puis, il va le remettre dans le feu. Et cet homme était en train de dire, moi, j'ai perdu le feu parce que mon pasteur n'y a pas fait ci, parce que les anciens sont comme ça, parce que cette église, elle est comme ci, parce que cette église, elle est comme ça. Et lui, il ne répond pas. Il dit, il prend le galet, et il recommence à plusieurs reprises. Et ce frère continue à déverser, vous voyez, tout ce qu'on peut... Ouais, parce qu'il n'y a pas d'église parfaite, forcément. Hein? Et puis, il continue comme ça, à déverser. Et cet homme continue la même opération. Il sort le galet incandescent, et puis, une fois que le galet est refroidi, il le remet dans le feu. Et il s'en va, sans dire au revoir, sans rien dire. Sans rien exprimer. Ce frère, il avait compris une chose, c'est que si la ferveur, si le feu descendait de son cœur, était sorti de son cœur, c'est parce qu'il s'était éloigné du feu. Et le feu, c'est l'église locale. Il a été repris comme ça, un geste prophétique. Donc, plutôt que de dire, tiens, ça ne va pas, vivez la communion fraternelle. J'ai reçu ce passage, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Tiens, où sont les érudits dans cette... De qui s'agit-il? Qui dit cela? Bon, il y a deux qui lisent la Bible régulièrement. C'est bien. On a du progrès à faire. Ouais, c'est des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, pendant mon temps de prière, donc je fais ça à peu près une fois par mois, hein, je prends vraiment une journée pour le Seigneur. Merci pour les personnes qui prient pour moi. Le cœur de mon peuple s'éteint. Voilà ce que je pense avoir entendu. Il ne brûle plus comme avant. Et je veux embraser les cœurs refroidis. Ça, c'est rigolo parce que j'ai lu cette histoire pas plus tard qu'hier. Vous voyez, du galet. Et c'est comme rigolo comment le Seigneur, des fois, il nous conduit. Hein. Il nous parle et puis nous amène comme ça à vivre des... avoir des pulses comme ça qui viennent s'accrocher et puis nous donnent une image complète. Je crois vraiment que Dieu veut réchauffer nos cœurs. Bon, nos corps aussi, parce que on sent, hein, ça, vivant que l'hiver se termine. Hein. Mais je pense que souvent, on peut vivre des situations, des circonstances qui refroidissent notre foi, voire qui l'éteignent complètement. Et ce que j'aime dans ce que je vois ici, dans ce que Dieu m'a dit, c'est qu'il voit, vous savez, Jésus est celui qui se tient même au milieu des sept églises, des églises locales, et puis il regarde, il examine, il juge, il reprend, il encourage, enfin bref, il est là. Mais ce que j'aime surtout chez le Seigneur, c'est qu'il veut toujours ranimer les choses en nous. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi. Si vous avez vécu déjà des moments où c'était plutôt éteint, non? Qui a vécu ça? Rassurez-moi que je ne sois pas le seul à lever la main. Ouais. Tout le monde, je pense. Et en fait, je crois qu'on a tous vécu des moments comme ça où ça s'éteignait dans notre cœur. Et Jésus voit cela. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais il veut ranimer la flamme. Ouais. C'est comme un couple. Hein. Des fois, dans le couple, il y a des moments plus difficiles. Ok, je ne vais pas demander aux gens de lever la main. C'est parce que c'est là où, dans le couple, il n'y en a qu'un seul qui lève la main. Est-ce que... Le feu. Il faut savoir que dans la Bible, il y a plus de 1000 références qui parlent du feu. Waouh ! 1000 références où je vois la fumée, les éclairs, le feu, les braises. 1000 références. C'est incroyable quand même, hein ? Pourquoi ? Parce que à chaque fois que vous voyez le feu dans la Bible, c'est la manifestation de l'action de Dieu. Or, vous savez, dans nos églises charismatiques, évangéliques, pentecôtistes, peu importe comment vous l'appelez, on veut toujours vivre le feu de Dieu. Et quand on parle du feu de Dieu, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est vrai ? Or, si vous voulez avoir le feu dans votre cœur, il va falloir vivre ces quatre étapes. En tout cas, ces quatre dimensions du feu. Un, le jugement. Je prends l'exemple du jugement. Dans la Bible, par exemple, mes lunettes, elles sont là. C'est l'âge. J'ai toutes les excuses. Oui, avant d'aller plus loin, cette semaine, j'ai entendu le témoignage de quelqu'un lors des 30 minutes chrono qui disait que une personne chrétienne avait dit à une autre personne chrétienne qui partageait tout ce qu'elle vivait avec le Seigneur, etc. Elle dit « Oh, c'en est trop ça. Je trouve quand même que certains chrétiens exagèrent. Ils parlent de Dieu, ils parlent de sa puissance, ils parlent de tout ce qu'il fait. » Et moi, ça m'a interpellé d'entendre ce témoignage. Je me suis dit « Waouh !» Comme si moi, quand j'ai du feu, bah ça peut être gênant d'avoir le feu en soi. Comme si ma foi vivante, ma foi fervente pouvait être dérangeante. Mais où va-t-on, quoi ? Non, mais c'est vrai. C'est comme si on ne pouvait plus témoigner de ce que Dieu faisait dans notre vie. On est dans le correctement exprimé. Il faut pas dépasser les choses, quoi. Il faut. Non, 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 non. Jésus ne veut pas cela. Il veut que ça brûle en toi. Il veut que ça brûle dans ton cœur. Donc, refusez. Et regardez, j'ai un exemple précis dans 2 Samuel chapitre 6, verset 16. Je vois qu'il y en a qui vérifient ce que je vais dire. Michal, la femme de David, la fille donc de Saül, le roi. D'accord ? Regardez, à un moment donné, il y avait l'Arche de l'Alliance qui était dans un endroit, d'ailleurs, à l'endroit où elle était, les gens qui étaient là bénéficiaient de la bénédiction, d'avoir l'Arche. Ça veut dire que ça vaut le coup. L'Arche représente la présence de Dieu. Hein. Et qui est Dieu ? Il représente tout ce qu'il est. Et on s'aperçoit en réalité que Dieu en nous, ça apporte quelque chose qui fait bouger les choses dans nos vies. Bref. Et puis, David, il dit, ah quand même, j'aimerais bien ramener cette Arche dans Jérusalem, ici. Et que fait-il ? Il envoie. Et puis lui, quand il voit l'arche arriver, bon, c'est vrai, il est un peu bizarre. Je vais pas le faire, mais il se dénude et il commence à danser et il fait des gestes. Non mais il loue l'Éternel, il est exalté pour Dieu. Et il est écrit dans 2 Samuel chapitre 6, je crois verset 16, il est écrit que Michal le méprisa, sa femme le méprisa. Elle dit, comment toi qui es roi, comment toi qui es le chef de ce peuple, oses-tu être olé olé comme ça ? Et que fait David ? Que répond-il ? Eh bien, il dit, tant mieux même si on me considère comme, je veux être encore plus humble, vil, je veux être rien devant le Dieu des cieux, le roi de la terre. Waouh ! Il répond à une volonté de faire taire le feu, la ferveur qu'il a en lui, en disant « Eh bien, tant mieux si je passe pour un imbécile, pour un fou, parce que j'honore et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait. » Donc, pour en revenir à nos jugements, là, le jugement, par exemple, on le voit dans le Sodome et Gomorre. Vous avez déjà entendu parler de ces deux villes, hein, où il se passait des trucs bizarres, où le jugement a été radical. C'est aussi le cas dans le livre des Nombres, où il y a plusieurs personnes qui ont été foudroyées par Dieu. Oh là, pas pour moi, Seigneur. être foudroyé par Dieu, ça va être terrible. Et puis, il est question du feu de la géhenne qui est enseigné par Jésus. Et il était question dans l'Apocalypse de l'étang de feu éternel, etc. Où Dieu juge. Alors, qu'est-ce qu'on entend par jugement de Dieu? Ben, je vais vous donner simplement un petit exemple. Vous voyez un homme, un jeune homme devant vous. On ne rit pas. Vous voyez un homme qui a des qualités et des défauts. Qu'est-ce que Dieu vient faire quand il juge? Il vient brûler ce qu'il y a de mauvais en nous. Il veut enlever ce qu'il y a de mauvais en nous. Et automatiquement, ça c'est quelque chose que nous devons comprendre. Parce que souvent, on a peur du jugement de Dieu, parce qu'on considère uniquement le jugement de Dieu. Alors qu'en réalité derrière, qu'est-ce que Dieu fait quand il juge? Il amène la purification. Et c'est le deuxième point en haut à droite. C'est-à-dire que quand Dieu vient juger des choses dans notre vie, automatiquement, c'est pour purifier, c'est pour enlever. Et ça, on a peur. On a peur du jugement, ça je le remarque. Parce que j'essaye aujourd'hui de dire les choses avec vérité, avec ce que je crois. Eh bien, à chaque fois que je dénonce quelque chose comme ça chez quelqu'un, je m'aperçois que la personne n'accepte pas ce jugement. Or, si tu veux que ça bouge dans ta vie, tu dois être capable d'aussi d'accepter le jugement de Dieu. Je sais, c'est pas facile à entendre, hein, mais c'est comme ça. Alors après, il y a la purification, forcément. On va le voir après, il y a le texte d'Ésaïe qui est super beau. Et puis, il y a aussi la présence de Dieu. Par exemple, on pourra voir que par le feu, Dieu manifeste sa présence. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il est là, je crois que tu en as parlé dimanche dernier, il a parlé du mont Sinaï, mont Horeb, mont Sinaï. En fait, c'est un lieu où Moïse, à un moment, se retrouve là-haut, et Dieu dit bien, il manifeste sa présence par le feu dans le buisson qui ne se consume pas. Et que va-t-il dire? Il va dire, oh Moïse, fais attention mon gars, parce que là, tu t'approches de quelque chose qui est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu veut mettre le feu dans le cœur de quelqu'un, il veut aussi amener sa sainteté. Il veut purifier notre cœur. Il veut faire comprendre qui est Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas notre pote non plus. Comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que, à partir du moment où je recherche la présence de Dieu, il va me falloir m'éloigner de certaines choses. Et puis, il y a le Saint-Esprit. Bon, vous connaissez la Pentecôte, je ne vais pas vous le refaire. Mais le jour de la Pentecôte, il y a le Saint-Esprit qui se manifeste par ces flammettes qui tombent sur chacun des disciples. Mon frère, ma sœur, tu veux le feu? Eh bien, il va te falloir accepter ces quatre choses. Tu ne peux pas dire « je veux être rempli de la puissance du Saint-Esprit, je veux prophétiser, je veux parler en langue ». Vous voyez, tous les dons qui se manifeste lorsque le Saint-Esprit vient avec puissance dans la vie de quelqu'un. Mais il n'y a pas que ça. Si je veux que le feu brûle en moi, je dois accepter le jugement de Dieu. Je dois accepter qu'il change mon caractère. Je dois accepter qu'il mette le doigt sur des points précis dans ma vie. Parce que si je ne permets pas à Dieu de faire cela, bah oui, tu vas avoir juste un feu qui est le feu de l'Esprit qui est deviendra quelque chose d'émotionnel. Or, quand Dieu veut mettre le feu dans ma vie, il veut aller beaucoup plus loin que dans l'expression de ce que je dis. Je vous donne un exemple. Alors, je donne des formations. Je suis formateur pour ceux qui ne le savent pas, pour encore 2 mois. Et dernièrement, il y avait un chrétien dans le groupe. Je le reconnais tout de suite. Je les sens en plein nez, les chrétiens. Parce que je vois par rapport à son attitude, etc. Et clairement, dans l'environnement où il était, le pauvre, il était dans un environnement avec ses collègues qui était plutôt malsain. Vous voyez ce que je veux dire? On entendait des vertes et des pas mûres. Il fallait que je recadre plusieurs fois. Et puis à un moment donné, je n'ai pas dit que j'étais chrétien. Après, il l'a su après. Et puis, il commence à sortir des choses pas très claires, quoi. Et puis, clairement, je peux vous dire, Je sais que quelqu'un a vécu une histoire semblable, un peu dans le même genre, cette semaine. Mais je peux dire qu'à un moment donné, j'ai cité un verset biblique, sans que les gens s'en rendent compte. J'ai dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce qu'ils étaient en train de tous râler, parce que c'était l'heure d'aller manger. Je réponds, mais vous savez, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et puis je continue ce que j'ai à dire. Et le gars, il a blêmi. Il a dit, oh là, qu'est-ce que je viens de dire ? Il a été repris dans sa conscience. Et vous savez, mon frère, ma sœur, si tu veux que le feu revienne dans ta vie, tu dois accepter, à un moment donné, que Dieu te reprenne. Que Dieu te reprenne parfois d'une manière sèche. Je sais, ça ne vous encourage pas, mais voilà. Le cas d'Ésaïe. Alors qu'en lisant ce texte, on va retrouver ces quatre choses. Regardez Ésaïe. Je vous le lis, on le lit ensemble. L'année de la mort d'Ozias, le roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Déjà, on voit que quand Dieu est dans le temple, quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, les pans de sa robe remplissaient le temple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il veut toute la place. Ah, prends pas ça, Seigneur, ça c'est ma petite pièce à moi. Non, 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 non. Quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il veut prendre toute la place. Des séraphins, vous savez que séraphin, ça vient du verbe en hébreu qui veut dire qui est séraph, qui veut dire feu, brûlé. Tiens, ces séraphins sont brûlants pour Dieu. Et clairement, quand on est dans la présence de Dieu, on brûle. Ils se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes dont ils se couvraient, deux dont ils se couvraient, deux dont ils se couvraient les pieds et dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Là, on voit la présence de Dieu. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Le jugement vient. Forcément, il se retrouve devant Dieu. Il voit bien qu'il y a un décalage entre qui est Dieu et ce qu'il est. Lui, il voit bien qu'il ne marche pas toujours comme Dieu voudrait qu'il marche. Et pourtant, c'est un homme qui sert dans le temple. Et pourtant, c'est un homme qui sert dans l'église. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a la foi. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Et malgré ça, il se rend compte qu'il est loin d'être au niveau de ce que Dieu voudrait qu'il soit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je peux valider ce que je suis à travers ce que je fais dans le temple. Mais Dieu ne regarde pas à ce que tu fais. Dieu ne regarde pas à tes dons. Il regarde à ton cœur, il regarde à ce que tu es, il regarde à ce que tu as, à tes actions, à tes paroles. Et ça, c'est fort, je trouve, non ? Et je comprends pourquoi il comprend le jugement de Dieu. Il dit, oh là là ! D'ailleurs, on le voit bien, les séraphins, eux, ils se couvrent tellement Dieu est saint, tellement Dieu est glorieux, ils se couvrent. Il voit ça, Ésaïe. Et lui, il se dit, oh là là, moi, je vais mourir là. « Malheur à moi, dit-il, je ne mérite que la mort. » Et en réalité, tous autant que nous sommes, il est écrit ça dans l'Épître aux Romains, si vous lisez un peu la Bible, vous verrez qu'il est écrit « Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Tous méritent d'être sortis. » Et l'Épître aux Romains nous montre que si nous sommes sauvés, c'est par la foi en celui qui est mort sur les péchés, pour nos péchés sur la croix, et c'est lui seul, par lui, en lui, que nous sommes sauvés. Et on voit bien, même s'il y a un jugement, on voit bien qu'il y a la rédemption, la purification, parce qu'il dit, mais l'un des séraphins vola vers moi. Il prit une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Tiens, on dirait le vieil homme avec ses... En fait, cet homme qui manquait de ferveur, vous savez ce qu'il aurait dû avoir ? Avant que l'homme parte, il aurait dû se rendre compte, en fait, que son cœur était mauvais. Et là, l'homme aurait pu prendre une pincette et aller le mettre sur ses lèvres. Il toucha ma bouche, il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Mon frère, ma sœur, on a besoin d'être purifié et d'être expié. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans le temple, comme Ésaïe, que nous n'en avons pas besoin, n'est-ce pas ? Enfin, j'espère que vous entendez ça. Et j'entends la voix du Seigneur qui disant, « Qui enverrai-je ? » Il s'est senti jugé, il a vu la présence de Dieu, il a entendu Dieu, il a vécu la purification. Maintenant, il peut être envoyé. Et souvent, ce qu'on veut, c'est servir, être envoyé, vous voyez, être de grands prophètes, prophétiser, on veut être de grands prédicateurs, être de grands évangélistes, vous voyez, on veut. Mais je suis désolé, les étapes, c'est le jugement, la purification et la présence de Dieu d'abord. Je sais, ça vous choque peut-être ce que je dis, mais c'est la présence de Dieu qui compte avant d'être capable d'être envoyé. Et là, maintenant, Ésaïe, il a compris ça, il est purifié. Et il entend Dieu dire, maintenant, Dieu lui dit, mais qui vais-je envoyer ? Et là, il peut répondre, moi, Seigneur, vas-y. Moi, Seigneur, tu peux m'envoyer parce que tu as expié mon péché, parce que tu es venu juger les sentiments de mon cœur, parce que tu es venu remettre en question quelques pensées que j'avais, Seigneur. Maintenant, je peux être envoyé. Si nous voulons que Dieu embrase nos cœurs, nous devons accepter tous les effets du feu en nous. En tout cas, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Moi, je veux être plein de feu pour Dieu, mais je veux aussi qu'il vienne brûler certaines choses dans ma vie. Et vous savez, lorsque le séraphin revient avec les pincettes, il lui dit, imaginez, Ésaïe, malheur à moi, je suis un homme perdu, mes lèvres sont impures. Est-ce que le séraphin vient et qu'il approche en disant, ah oh, ben tu sais séraphin, tu as des circonstances atténuantes mon ami, hein. Ah oh, ben tu sais, tu n'as pas une enfance heureuse, hein. Ah oh ben tu sais, t'es dans un milieu quand même qui est un milieu qui est plutôt hostile, hein. T'es avec un peuple de pécheurs. Hein. Il le dit d'ailleurs Ésaïe, malheur à moi parce que je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il le dit, mais il ne dit jamais, mais c'est pas grave, c'est pas ta faute. Non, il vient le voir, il le dit, oui, tu es un homme pécheur. Oui, tu as besoin d'être purifié. Ah ouais, c'est pas très pastoral ce que je vous dis. Mais c'est la réalité du royaume de Dieu et de la présence de Dieu. Autrement dit, souvent aussi, enfin moi, peut-être pas vous, mais moi je vous le confesse, souvent je me suis donné des circonstances atténuantes. Vous pouvez continuer, mais ça marche pas devant Dieu. Et si tu continues à te donner des circonstances atténuantes, il faut que tu saches une chose, c'est pas comme ça que le feu reviendra. Et puis, j'en reviens à mes deux érudits qui ont reconnu le passage, des disciples d'Emmaüs. Vous savez ce que ça veut dire Emmaüs ? Ça veut dire eau chaude. Ouais, on va comprendre. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin ? Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Je vous explique un peu la situation. Ça vous dit ? Pour ceux qui lisent pas leur Bible ? C'est pas bon que je vieillisse, il faudrait que j'arrête de vieillir. Seigneur, arrête de me faire vieillir parce que je raconte de plus en plus de bêtises. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a été crucifié, conformément à ce qu'il avait été annoncé. Jésus crucifié. Moi, je me mets à la place des disciples. Un instant, et je me dis, waouh, j'avais fondé plein d'espoir sur cet homme, et maintenant il est mort, crucifié. En plus, il a été crucifié, et puis je me suis sauvé, je me suis enfui, j'étais lâche, etc. Waouh. Et puis, il y a ces deux disciples, il y en a un qui s'appelle Cléophas ou Cléopas, quelque chose comme ça. Il y en a des deux qui s'appellent comme ça. Et l'autre, on ne connaît pas le nom. Et ils se disent, tiens, on va aller à Emmaüs. Parce qu'eux, ils sont complètement défaits, les gars. Ils ont le moral à zéro. Donc on va aller à Emmaüs. Et si on se faisait une petite thalasso à Emmaüs, on va aller chercher l'eau chaude. Et ça m'a vachement parlé, ça. Pourquoi ? Parce que des fois, pour que ça aille mieux, vous savez ce qu'on fait ? On se prend des vacances. On n'irait pas faire une petite thalasso sur la Côte d'Azur ? Non, mais les gars partent directement vers Emmaüs. Des fois, on cherche un endroit pour aller mieux. Mais un endroit qui n'est pas le bon. Et puis, en chemin, forcément, entre-temps, Jésus est ressuscité. C'est la bonne nouvelle. Et puis, Jésus s'est montré à des femmes qui ont vu le... Non, je ne pense pas qu'il s'est montré à elles tout de suite. Pas dans l'évangile dans Luc, en tout cas. Il est écrit qu'elles sont tombées sur deux anges, elles ont vu la pierre ouverte, enfin, etc. Les deux anges viennent dire, mais pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité ici ? Il est vivant, comme il l'avait annoncé. Elles courent voir, ces femmes courent voir les hommes. Messieurs, il faudrait écouter un peu mieux les femmes de temps en temps. Et là, elle dit, tiens, elle est en train de lever la main. N'est-ce pas, Marie ? Et là, elle est en train de lever la main, Jacqueline, et elle a raison, parce que là, c'est les femmes qui vont voir les hommes et qui disent « Oh, Jésus est ressuscité !» Vous savez ce qu'ils répondent, les hommes ? Messieurs, il y a de quoi avoir honte. Ils répondent « Oh, ce jeu, s'ils disent, t'as pas fumé de la moquette, quoi. Hein » Ils se moquent un peu d'elle, ils disent « Mais vous êtes un peu folles, les filles, là. C'est pas vrai, c'est pas possible. » Et puis Jésus... Donc, ces deux disciples sont en chemin et ils sont en train de parler de tout ce qui se passe. Oh, c'est triste. Oh, tu sais, on peut se nourrir des fois. Hein. Oh, mais ça va pas. Hein. Oh là là là. Et puis, Jésus, on attendait beaucoup plus de lui. Il n'a pas tenu le choc, le pauvre, hein, etc. Non, mais attendez. Souvent, on dit ça. Souvent, on dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu attends pour bouger ? Qu'est-ce que tu attends pour faire les choses ? Et puis, ils sont en train de discuter. Et puis là, Jésus arrive en chemin. Commence à parler avec eux. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars ? Mais les gars disent, mais d'où tu tombes, toi ? Parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Mais il vient d'où, celui-là ? Il n'est même pas au courant de ce que tout le monde parle à Jérusalem et dans la région. Jésus est mort. Et nous, on s'attendait qu'il délivre Israël. On l'attendait qu'il soit le roi, etc., etc. Et puis, ils se remettent à pleurer. Et ils se disent, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Mais regarde là, on est obligé pour aller mieux d'aller faire une thalasso à Emmaüs. Vous allez la retenir celle-là, hein ? La thalasso à Emmaüs. Et là, Jésus, à un moment donné, leurs yeux sont fermés, ils ne comprennent pas. Et là, Jésus commence à leur expliquer tout ce qui le concerne lui. Depuis la Genèse, en passant par les prophètes, il leur explique tout ce qui le concerne, parce que toute la Bible parle de Jésus, parle du Fils de Dieu. Toute la Bible parle du péché venu en l'homme, qui ne peut rendre les hommes heureux, quoi qu'on fasse. La seule solution, c'est le pardon en Jésus-Christ, c'est la rédemption. Le seul pardon, c'est la transformation de l'homme par l'action de Dieu, par l'action de sa parole et la puissance du Saint-Esprit. Et là, il leur parle, il leur parle, il leur parle. Et puis les disciples, que font-ils ? Ils disent, oh, à un moment donné, ils s'arrêtent pour manger, ils veulent s'arrêter parce que ça va être la nuit tombe. Et puis Jésus allait continuer son chemin, mais il le fait exprès, le Seigneur. Et là, les disciples, non, s'il te plaît, reste avec nous. Et puis là, il prépare le pain et le vin. Et on va prendre le pain et le vin après. Et là, il commence à rompre le pain. Et Jésus commence à rendre grâce. Et que se passe-t-il ? Leurs yeux s'ouvrent. Et au moment où leurs yeux s'ouvrent, moi j'aurais plein de questions à poser au Seigneur. Le Seigneur disparaît devant eux. J'aime beaucoup l'humour de Dieu, vous savez. Et là, que font-ils ? Ils laissent tomber la terre à l'assaut. Et ils retournent vers les disciples, raconter ce qui s'est passé. Et ils disent,
Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures et tout ce qui le concernait ? Là, ce n'est pas du tout le feu qui vient pour allumer le feu. Là, c'est la présence de Jésus. C'est sa parole qui vient pour libérer le feu dans la personne. On va prendre les signes d'un cœur embrasé. Regardez ses disciples. La première des choses, c'est qu'ils ont soif des Écritures. Tu veux savoir si ton cœur a besoin d'être renouvelé dans le feu de Dieu ? Est-ce que tu as soif des Écritures ? Il disait, notre cœur brûlé, on a envie de savoir. On aurait posé des questions, on aurait passé toute la nuit, on n'aurait pas dormi parce qu'on voulait qu'il nous parle encore. Tu veux savoir si ton cœur est embrasé ? Tu mesures le temps que tu prends pour méditer les Écritures et tu mesureras la température de ton cœur. La soif de sa présence. À un moment donné, Jésus, et vous savez, il dit, je vais vous laisser les gars. Non, reste avec nous. Reste avec nous. Tu veux savoir si ton cœur a besoin d'être embrasé ? Tu mesures ta soif de prendre du temps avec lui. Rien d'autre. Je suis désolé, hein, mais c'est ça. Quel temps je prends avec Jésus et quel temps je prends pour faire plein de choses dans ma vie. Il avait soif de communion. La première des choses, c'était de préparer le feu, le repas et de rester. Mais ils avaient la communion. La première des choses qu'ils ont fait, ils voulaient rester avec Jésus, mais ils ne dissociaient pas Jésus de l'Église, déjà, avant que l'Église ne naisse. La première des choses qu'ils font, ils ne vont pas à Emmaüs, se baigner dans les eaux chaudes. Ils vont où ? Ils retournent vers Jérusalem, vers les leurs, vers leurs amis, vers les disciples. Ils veulent prendre du temps ensemble. Ils veulent témoigner de ce qu'ils ont vécu. Tu veux mesurer si ton cœur a besoin d'être embrasé ? Mesure le degré de désir que tu as de venir et de passer du temps avec les autres à l'Église. Et enfin, ils avaient soif de servir. Ils avaient soif de se mettre au service des autres et de se mettre au service de Jésus. Tu veux connaître si ton cœur a besoin d'être embrasé à nouveau. Mesure ton désir de servir les autres. Je sais, c'est très inconfortable ce que je suis en train de dire, parce que je sais que je suis en train de toucher le cœur même, votre cœur même. Mais sachez une chose, je ne le fais pas par méchanceté, mais pour relever, pour faire sortir des choses de votre cœur, pour que vous puissiez vous dire à la sortie de ce message, oui, j'ai besoin d'avoir un feu qui est renouvelé. Le cœur de mon peuple s'éteint. Il ne brûle plus comme avant. Je veux embrasser les cœurs refroidis. Mais tiens, je reviens, tiens, j'aime bien. Le cœur de mon peuple s'éteint. Il ne brûle plus comme avant. Je veux embraser les cœurs refroidis. Est-ce qu'on peut prendre un peu de temps pour louer le Seigneur ? Et vous savez, on va prendre le repas là maintenant. Moi, j'aimerais qu'on le prenne dans cet esprit de ces deux disciples d'Emmaüs, Cléopas et l'autre, dont on ne connaît pas le nom. Et peut-être de dire, Seigneur, ai-je besoin d'avoir mon cœur embrasé ? Ben, retournez dans la présence de Dieu, prenez plus de temps. Je vais juste prendre l'exemple d'un frère. Concernant les Écritures, il y a un frère que j'aime beaucoup, il est bien payé pour ça, il lit les Écritures pour vérifier des choses. Il lit la Bible pour vérifier que ce qui est, je crois qu'il y a une bande-son, c'est ça ? Et puis il doit vérifier que c'est bien dans le texte, quoi. En gros, c'est ça. Il m'a témoigné dernièrement que de lire la Bible, ça avait bousculé sa vie. Rien que de lire les Écritures. Waouh! Vous savez pourquoi le feu brûle dans mon cœur aujourd'hui? Ah, je suis pas dans une phase éteinte. Voilà. Mais je suis dans une phase où je boue pour Dieu. Pourquoi? Parce que je prends du temps avec le Seigneur. Et je peux vous dire que c'est parfois inconfortable de prendre du temps avec le Seigneur parce que, vous voyez, j'ai eu des vécus dans cette année que je viens de vivre, des moments où Dieu est venu juger. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Bruno? Il est temps que ça s'arrête, ça. Mais est-ce que tu es prêt d'accepter le jugement de Dieu? De te laisser reprendre par lui? T'as envie que ça brûle? Recherche sa présence. Peut-être que tu es sur le chemin d'Emmaüs. Et peut-être aussi que tu dis, tiens, je vais aller me faire une petite thalasso au Touquet, chez Emmanuel. Bon, elle était facile. Peut-être que tu te dis, je vais partir en vacances pour aller mieux. Peut-être que tu te dis, bah tiens, je vais aller au restaurant pour aller mieux. Mais non ! L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu va ranimer cela. On peut prier maintenant. On peut demander au Seigneur peut-être de ranimer, de demander au Saint-Esprit de venir, etc. Mais j'ai vraiment sur le cœur de vous dire ceci. Prenez du temps avec lui. Allez avec Jésus. Va aller dans sa présence. Et peut-être même que tu te sens jugé aujourd'hui. Peut-être que tu sens le jugement de Dieu. Alors s'il te plaît, arrête de te donner des circonstances atténuantes, ça ne sert à rien. Franchement, n'a que faire le Seigneur de nos circonstances atténuantes. Vous savez, quand on se retrouvera devant lui, bah, on n'aura même pas la bouche, notre bouche sera fermée, hein, je peux vous le dire. Il va. Mais acceptons la purification. Je ne sais pas ce que tu as pu dire, pu faire. D'ailleurs, ça ne me regarde pas. C'est entre toi et Dieu. Mais Dieu veut purifier aussi ça. Peut-être aussi que dans ta vie aujourd'hui, tu as toujours les mêmes travers. Dieu veut purifier ça. Accepte le feu de la purification. Accepte le feu du jugement. En fait, accepte le feu de l'Esprit Saint pour t'équiper et t'envoyer. Accepte tout la dimension du feu dans ta vie. Le cœur de mon peuple s'éteint. Il ne brûle plus comme avant. Et je veux embraser son cœur.